Bonjour et bienvenue dans le récit d'une expérience de 3 mois au cœur du plein air accessible en France. Je me présente Alexandra Gilbert, étudiante à la maîtrise en loisirs, culture, tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières et agente de projet à l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. La présentation d'aujourd'hui vise à vous exposer le contexte dans lequel j'ai réalisé un stage exploratoire, la méthodologie employée pour procéder à la collecte de données, ainsi que les résultats de cette étude, à savoir les conditions optimales à la mise en œuvre d'activités de plein air accessibles, les défis encourus et, à la lumière de ces résultats, des recommandations. Je tiens à noter qu'hier, j'ai été sensibilisée à la description audio des images que l'on voit à la présentation. J'ai donc décidé d'ajouter certains éléments de description des photos que vous allez voir à l'écran. Les objectifs du stage étaient de documenter la planification et la mise en œuvre des aménagements de plein air accessibles en France, ainsi que d'en cerner les critères. Aussi de cibler les différences quant aux conceptions d'accessibilité entre la France et le Québec. Étant impliquée dans 2 études sur le plein air et le plein air en parc urbain, des points de comparaison pouvaient être ressortis. Pour les besoins de l'étude, j'ai malheureusement dû voyager à travers la France. La photo que l'on peut voir à l'écran, en fait, se trouve à être une carte où des indicateurs sont positionnés sur les différents endroits que j'ai visités. Donc, j'ai été tant au nord qu'au sud, ainsi qu'à l'est. Il me restera à revenir pour voir l'ouest. J'ai donc procédé à 10 entrevues avec des professionnels de divers milieux qui vous seront présentés dans quelques instants. Ces professionnels ont développé des aménagements accessibles ou encore des guides. J'ai aussi fait l'observation de 7 sites et effectué une analyse documentaire de 7 guides, dont le contenu visait à accompagner les gestionnaires d'espaces de plein air dans le développement d'une offre accessible pour les personnes avec des limitations. Les entrevues ont porté sur les conditions de développement de l'offre, comme le point de départ de l'offre ou encore les ressources nécessaires. Les professionnels que j'ai rencontrés œuvraient soit dans des associations de pratique ou des organisations publiques. Les associations de pratique rassemblent des adeptes d'activités de plein air ou des membres, avec des limitations ou non, couvrant un territoire circonscrit et organisé autour d'une pratique précise, par exemple la randonnée pédestre. Quant aux organisations publiques rencontrées, elles reçoivent des fonds d'une instance gouvernementale, soit des ministères ou des départements. Et l'accessibilité n'est pas nécessairement leur mission première. Pour ce qui est des sites visités, ils ont été développés suite à l'initiative des instances publiques, comme une commune ou les départements, ce qui fait que ces sites dépendent d'une volonté politique. Malgré l'intention d'aménager des espaces accessibles, des spécialistes de l'accessibilité n'étaient pas nécessairement impliqués dans les projets. Pour vous parler des résultats, je dois vous présenter un modèle que des chercheurs au Québec ont développé et qui est de plus en plus utilisé dans notre littérature, à savoir le modèle de l'expérience inclusive de loisirs et, dans ce cas-ci, l'expérience inclusive de loisirs de plein air. Ainsi, ce modèle suppose qu'une expérience inclusive de loisirs de plein air dépend de l'interrelation entre, premièrement, un site d'activité et des équipements qui permettent une pratique significative qui répond aux désirs et aspirations de la personne avec des limitations. Deuxièmement, que la personne avec des limitations comprenne et s'engage dans une pratique qui mobilise ses potentiels. Et pour terminer, que la personne avec des limitations établisse des interactions positives et réciproques avec d'autres participants. Ce sont donc chacune des composantes de ce modèle qui ont été utilisées pour analyser les résultats. Je vais maintenant vous présenter les pratiques inspirantes et celles présentant des défis. Quant à la première composante du modèle, soit accéder à des sites et des équipements permettant une pratique significative répondant aux désirs et aspirations de la personne. Dans un premier temps, une association rencontrée rend disponible des équipements et des ressources afin de permettre la pratique de courses de trail, donnant ainsi accès à une pratique et à de l'équipement pour les personnes ayant des limitations. Au centre de l'écran, on peut voir l'affiche de l'événement qui représente une ville ainsi qu'une joëlette. Dans un autre site, une promenade urbaine a été aménagée de façon accessible en mettant l'accent sur différentes activités d'interprétation, donnant ainsi accès au site et accès à l'interprétation. On peut voir, à la gauche de l'écran, un jeu de bois qui permet, à l'aide de petits marteaux de métal, de taper sur différentes essences de bois et ainsi entendre les sons de ces essences de bois. D'autre part, un département a aménagé un point de vue, précédé d'un sentier d'une cinquantaine de mètres, alors que le site compte plusieurs dizaines de kilomètres. Malgré que ce site réponde aux normes de certaines certifications, la personne avec des limitations a accès au site, mais pas dans le site. Il est important d'aller au-delà des normes afin de répondre aux désirs et aspirations de la personne avec des limitations. L'image de droite représente le sentier dont je vous parle et on peut y voir une promenade de bois avec un paysage montagneux. Ce qui pourrait être recommandé dans ce cas, c'est de s'assurer de ne pas réduire les désirs et aspirations des personnes avec des limitations. Ce serait de rendre accessibles les sites qui peuvent vraiment l'être. Il s'agit de s'interroger, est-ce que tout doit être accessible ou est-ce que ce doit être agréablement accessible? En comparaison avec des pratiques observées au Québec, comme en France, certaines villes mettent à disposition des visiteurs et des citoyens des équipements, comme ici, l'image de gauche, des vélos, différents types de vélos adaptés. Cela permet donc une pratique individualisée selon les désirs et aspirations des personnes avec des limitations. Cependant, une tendance en aménagement de plusieurs villes au Québec est d'aménager des modules de jeux pour enfants adaptés. Lorsqu'on aménage un tel espace, il importe de considérer tous les publics et tous leurs besoins. Quant à la deuxième composante du modèle, soit de comprendre et s'engager dans une activité qui mobilise ses potentiels, un département a développé une approche qui favorise l'aménagement conçu pour tous. Comme le montre le logo qu'on peut trouver au centre en haut, qui représente une personne avec une canne et une personne avec une poussette. Le département aménage donc des promenades de différents niveaux de difficulté qui assurent que la personne avec des limitations aura le choix d'une pratique qui mobilise ses potentiels. Une autre association rencontrée accueille des groupes et leur organise des séjours personnalisés avec des activités qui correspondent à leurs capacités et selon leur niveau d'autonomie, permettant ainsi une pratique significative qui mobilise leur potentiel. L'image en haut à gauche, où on peut voir certains bâtiments de bois, sont les lieux où l'accueil de groupe se fait. En outre, un parc naturel régional organise des randonnées guidées et accompagnées d'un âne en collaboration avec une association de pratique, offrant ainsi aux participants la possibilité de comprendre et s'engager réellement dans une activité, créant ainsi un rapport spécial avec la nature. Comme on peut le voir dans l'image du bas à gauche, avec une dizaine de personnes se suivant en randonnée, et les personnes avec des limitations utilisent des engins motorisés. D'un autre côté, un parc national a aménagé un sentier avec une partie accessible. On peut le voir sur l'image en bas à droite, où on peut voir un sentier à demi asphalté et à demi en roche, avec un paysage montagneux. La personne avec des limitations a accès à 1 km seulement, n'a donc pas l'opportunité de valoriser ses potentiels. D'autant plus qu'à cause d'un manque d'évaluation et de suivi, le sentier est maintenant impraticable, ce qui limite encore plus les chances d'accéder à une expérience significative. Dans le cas où il n'est pas possible d'aménager un sentier pour des raisons patrimoniales, environnementales ou seulement par un manque de ressources, il pourrait être proposé de l'équipement adapté pour pratiquer le sentier, par exemple, ou encore des activités d'interprétation qui donnent accès différemment et qui permet à la personne de s'engager d'une autre façon dans l'activité. Il pourrait aussi simplement s'agir d'annoncer aux personnes avec des limitations que seulement un kilomètre est accessible. Au Québec, un parc a été aménagé avec un sentier assez linéaire, avec un étang comme point d'intérêt central. Plusieurs sections de ce point d'intérêt ne sont pas accessibles aux personnes avec des limitations, mobilisant peu les potentiels des visiteurs. D'autant plus que la seule partie accessible est dangereuse, considérant qu'il n'y a aucune indication texturée ou podotactile aux abords de l'étang, comme on peut le voir sur la photo. Sur l'image, on peut voir des personnes près de l'étang, dont une personne avec une déficience visuelle et son chien d'assistance devant elle qui l'empêche de tomber dans l'étang. À la différence où d'autres organisations misent sur les forces des participants ou misent sur la connaissance du participant de ses potentiels et de ses besoins. D'ailleurs, ce genre d'approche peut permettre aux participants de découvrir eux-mêmes leur potentiel. Pour ce qui est de la dernière composante, qui est d'établir des relations positives et réciproques avec les autres participants, des randonnées organisées en collaboration avec une association et un parc naturel régional misent sur la mixité des clientèles, humaines et animales, puisqu'un âne rythme le pas des randonneurs. L'image en haut à gauche, comme tout à l'heure, où on voit les randonneurs qui se suivent l'un à la suite de l'autre. C'est aussi le cas d'une association qui organise des séjours de 3 à 7 jours. Ainsi, ce sont des personnes sans limitation qui accompagnent les participants avec des limitations. On peut voir sur l'image de droite un participant utilisant une joëlette et d'autres qui l'accompagnent sur le flanc d'une montagne. Ces activités permettent donc aux participants avec et sans limitation de partager un moment et d'entrer en contact par le biais d'un intérêt commun. Tandis qu'un autre site, par exemple, a été aménagé de façon accessible et mis sur l'utilisation possible des différents publics. Dans ce cas, il serait conseillé d'organiser des activités de découverte multiclientèle afin de permettre les interactions positives et réciproques. On peut voir ce sentier sur la photo en bas à gauche. C'est donc une promenade où une ligne de vie limite les abords. Au Québec, on mise beaucoup sur le mobilier, à la différence de la France, pour mixer les publics. Ainsi, des balançoires accessibles aux personnes à mobilité réduite peuvent être installées ou encore des tables accessibles dans les aires de socialisation. On peut voir sur la photo en haut à gauche une balançoire à même le sol avec les bancs relevés permettant ainsi à une personne utilisant un fauteuil roulant de s'y installer. D'autant plus que, comme la photo l'indique à droite, un pictogramme avec l'inscription « banc réservé pour accès » y est installé, donc l'accès est réservé à ces personnes. Au centre, on peut voir une table adaptée. Par contre, l'entretien de ces équipements peut être laissé pour compte, limitant ainsi les possibilités de relation, comme le montre la photo d'une table endommagée en bas à droite. Dans le cadre de cette étude exploratoire, d'autres déterminants qui favorisent une expérience inclusive de plein air ont été ressortis. C'est le cas notamment des partenariats. Dans le cas du parc naturel régional qui organise des activités de randonnée, c'est la combinaison des efforts de 4 partenaires qui font en sorte que l'offre permet une expérience inclusive de plein air. En outre, dans le cas du sentier où un manque d'évaluation et de suivi a mené à sa dégradation, le fait qu'il n'y ait pas de porteur de dossier au sein de l'organisation peut avoir agi sur cette situation, de même que le fait que l'aménagement était lié à la volonté politique du moment. D'un autre côté, il va sans dire que dans le cas de l'association accueillant des groupes de personnes avec des limitations et organisant des séjours personnalisés avec diverses activités, le responsable porte les valeurs de l'accessibilité et cela se sent dans toutes les actions de l'organisation. Dès lors, les aménagements de plein air doivent être conçus en mettant la personne ayant des limitations au cœur de la démarche. On peut voir à l'écran une ligne représentant un processus ou un cheminement. Par exemple, personnalisons l'expérience d'une personne avec des limitations, appelons-la Béatrice. Béatrice, afin de lui permettre de vivre une expérience inclusive de loisirs, aimerait partir de la maison et avoir accès aux moyens de transport et accès aux sites d'activité. Le processus à l'écran image un pictogramme d'une personne utilisant un fauteuil roulant qui, au point de départ, où le mot « accès » est écrit avec une image d'un sentier. Béatrice aimerait ensuite vivre une activité significative. Le pictogramme, ou Béatrice, poursuit son chemin sur le cheminement et le mot significatif est inscrit avec une image d'un banc adapté. Béatrice aimerait utiliser ses forces et développer ses potentiels. Le pictogramme poursuit son cheminement vers le mot potentiel, où il y a une image du jeu d'interprétation permettant d'entendre les différentes essences de bois. Par la suite, Béatrice souhaiterait profiter de l'activité avec d'autres personnes et entrer en relation positive avec celle-ci. Le pictogramme a avancé vers le mot interaction, où on peut voir des randonneurs utilisant des véhicules motorisés être en cercle et socialiser. Non seulement Béatrice peut accéder au site, y circuler, en compagnie d'autres personnes, mais elle peut utiliser de différentes façons les installations. Le pictogramme a cheminé vers le mot « utiliser », où une image présente une carte d'un sentier avec des éléments tactiles. Les pratiques les plus inspirantes qui ont été rencontrées dans le cadre de cette étude exploratoire étaient celles qui permettaient à Béatrice de s'engager dans un rapport significatif avec la nature par les différentes activités d'interprétation et de médiation offertes. Les pratiques inspirantes permettaient à Béatrice de mobiliser ses potentiels et d'entrer en contact, en relation avec des participants. Bref, elles permettaient à Béatrice de respecter une chaîne de déplacement accessible, soit autant d'accéder au site que dans le site et d'en profiter pleinement. Le cheminement complet est donc présenté.